Les débats de Radio Afox.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième émission sur le thème des pesticides dans l'après-Grenelle de l'environnement. Rappelons que l'objectif du plan Ecophyto 2018 est de réduire d'ici à 10 ans de 50% l'usage des pesticides. Donc si vous nous avez suivis hier, nous avons vu quels allaient être les nouveaux indicateurs pour nous permettre de mesurer cet usage. Nous avons essayé également d'évaluer les risques pour la santé, notamment vis-à-vis des utilisateurs de ces pesticides. Nous avons vu également que c'était beaucoup plus difficile d'évaluer des risques pour les consommateurs. Et nous avons vu également l'impact que cela pouvait avoir dans l'environnement, notamment au niveau de la biodiversité, avec l'apparition d'espèces résistantes qui pouvaient induire aussi des pertes économiques pour l'agriculture. Aujourd'hui, nous poursuivons le débat avec toujours Monsieur Guy Paillotin, donc de l'Académie d'agriculture de France et président du comité opérationnel COMOP Ecophyto 2018, dont vous avez présidé donc ce comité. Donc Guy Paillotin, bonsoir. Nous avons également le plaisir d'accueillir Marie Legrand. Donc, vous êtes élue conseil régional Poitou-Charentes, élue verte, vice-présidente et présidente de la commission environnement. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous avons un autre élu, Sébastien Duclos. Vous êtes élu du Parti socialiste au conseil général des Deux-Sèvres, vice-président, président de la commission eau, assainissement, déchets et espaces ruraux.
Bonsoir.
Nous accueillons également Bruno Lepoivre, président de la commission environnement à la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres.
Bonsoir.
Et toujours également Michel Caillon de Poitou-Charentes Nature. Donc je vais d'abord vous demander de réagir à ce que vous avez pu entendre donc dans l'émission d'hier pour nos éditeurs et pour vous, c'était il y a quelques instants. Mais d'abord une première question à Marie Legrand. Donc l'Assemblée nationale a voté le projet de loi Grenelle 1, quasiment à l'unanimité. Les élus verts se sont abstenus, je crois qu'il y en a un qui a voté pour. Est-ce que c'est un projet qui, dans lequel vous décelez quand même quelques réticences de la part des verts?
Ce n'est pas des petites réticences, c'est la montagne à accoucher d'un souriceau. Un seul exemple, on devait s'orienter vers une réglementation imposant les 50 kW heure par mètre carré par an de l'habitat neuf, et on est passé à 120 pour laisser le chauffage électrique perdurer. Amendement Ollier.
Et sur la question qui nous intéresse ce soir, vis-à-vis des pesticides, le plan Ecophyto 2018.
Alors sur ce plan Ecophyto 2018, vous avez oublié de citer deux mots prononcés par le ministre Barnier. Il a dit, et d'ici 2018, nous diminuerons par deux, si c'est possible.
Oui, si c'est possible.
Si c'est possible. Et tout à l'heure, j'entendais notre ami qui a participé aux travaux nous dire qu'il ne fallait pas être contraignant. Il ne fallait pas être contraignant. Bon, à titre personnel, ça fait plus de 25 ans que je travaille sur la question des pesticides, avec Que choisir d'un premier temps, et puis maintenant, puis à la mairie de Poitiers, où j'ai mis en place la gestion différenciée des espaces verts avec Michel Merlet, et puis récemment au conseil régional Poitou-Charentes. Les pesticides sont un danger, je dirais, mortel pour l'humanité, pour la santé des hommes et des animaux, pour la biodiversité, pour les milieux. Donc il serait temps de s'engager sur des mesures, je dirais même assez brutales, si nous ne voulons pas voir disparaître l'ensemble de l'humanité, dans un délai extrêmement court. Donc cessons de faire un peu de l'angélisme et engageons-nous de manière beaucoup plus courageuse pour une division une par deux, certes, et pas si c'est possible, mais certaine, et beaucoup plus dure encore dans les années qui viennent.
Vous ne pensez pas qu'une bonne volonté de chacun, comme il a été dit hier soir, soit suffisante?
Ça ne suffira pas, puisqu'en 89, on avait détecté avec Que choisir pour la première fois la présence de pesticides dans l'eau destinée à la consommation humaine, alors tout le monde s'en moquait radicalement. N'oubliez pas aussi l'année dernière, en 2007, alors bien sûr ça se passe un peu hors du territoire national, mais c'est un département français, le scandale du chlordécone qui servait à traiter les bananeraies en Guadeloupe et en Martinique, et qui est en train de détruire en finance une partie de la population. Ce sera la même chose que l'amiante, mais on en parlera dans 20 ou 30 ans.
Et concernant donc les avantages économiques que l'on pourrait tirer aussi d'une réduction des pesticides, ce serait pas suffisant selon vous pour
Mais il
inciter à cette
s'agit pas
réduction.
de, il s'agit pas de, d'engager le débat sur l'aspect économique. Il va de l'avenir de l'humanité, tout simplement. Donc, à ce moment-là, c'est un problème de santé publique. C'est un problème de préservation de notre patrimoine. Donc là, je pense que c'est dans cette entrée-là qu'il faut mettre en évidence.
Alors, Monsieur Duglieu, votre parti, le Parti socialiste, a voté massivement. Je pense que tous les députés ont voté pour le projet. Donc, c'est un projet qui vous satisfait dans l'ensemble?
Alors, il est vrai que les amis socialistes ont largement participé au débat, ils ont abondé, ils ont milité, enfin, sur des positions de Marie Le Grand. Nous sommes responsabilités, nous avons une responsabilité nationale, nous devons prendre nos responsabilités en tant qu'élus, nous les prenons au niveau national, au niveau local, c'est ce que je fais moi au niveau du département des Deux-Sèvres, on en parlera tout à l'heure, mais en conduisant un nombre de politiques et d'actions qui peuvent être offensives. On nous taxe même de vouloir constituer des kolkhozes parce que nous achetons des terres pour les soustraire à une certaine agriculture et les redonner à une autre agriculture plus respectueuse de l'environnement par le biais de baux environnementaux notamment. Mais nous tenons bon et nous assumons complètement nos positions à ce niveau-là.
Donc, Monsieur Le Poivre, vous aussi, une réaction vis-à-vis de ce plan Ecophyto, du Grenelle dans son ensemble?
Une réaction qui sera certainement plus pragmatique que celle que Madame Legrand fait valoir. Moi, je suis en charge de la Chambre d'agriculture, hein, en termes d'environnement. Mais en termes d'agriculture, on a un triptyque, hein, c'est l'agriculture, l'économie et le social, hein, qui sont intimement liés. Donc, on ne peut pas avoir une vision que d'un point de vue environnemental. Les deux autres sont liés. Être catégorique, comme le fait valoir Madame Legrand, bon, très bien, quand on est du côté de FNE, mais quand on est du côté de la Chambre d'agriculture, où il y a des agriculteurs, une activité derrière, en tenant compte aussi bien du rôle de production et de citoyenneté, on peut être quand même un petit peu plus mesuré dans ses propos.
Monsieur Payotin, comment est-ce que vous réagissez au propos de Marie Legrand?
En gros, je ne réagis pas parce qu'on n'est pas. On n'est pas du tout l'un et l'autre dans la même situation. Moi, on m'a demandé, il n'y a pas eu de vote, c'est pas par vote, il n'y avait pas une tribune, ils en sont montés pour faire un effet de tribune. On me demandait un résultat. Et le résultat, c'était d'obtenir un minimum de consensus entre des gens plus extrêmes que vous, madame. Je ne nommerai pas, mais il y a des gens assez engagés, et puis de l'autre côté, des coopératives qui gagnent leur vie quand même. Donc il fallait arriver à un consensus. Le politique, lui, monte à la tribune et puis on vote. C'est pas. Et puis si les gens ne sont pas contents, sur le terrain, on ne vote plus pour lui. Moi, on ne m'élit pas. Donc on n'est pas du tout dans la même configuration. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je vais vous dire tout ça ne me touche pas, c'est pas politique. Donc j'avais un mot à faire, je l'ai fait. Et je constate qu'il y a une grande majorité de politiques pour voter pour cette loi, alors que je ne suis pas de cette majorité pour tout dire, de cette majorité actuelle.
Alors, pour vous, Marie Legrand, quelle solution alternative, supplémentaire, il aurait fallu inclure dans ce Grenelle pour que vous puissiez être satisfaite? Et puis, comment aussi harmoniser peut-être les mesures que vous préconisez sur le plan européen, puisque la législation européenne a aussi un rôle important dans tout ce qui concerne l'environnement?
Est-ce qu'on parle du Grenelle 1 ou du Grenelle 2? Parce
Alors,
que
le
là,
Grenelle 2, on n'a pas encore le texte. Enfin,
on reste bien sur le
on
sujet,
reste bien sur
pesticides,
le.
environnement,
Oui.
santé, etc.
Voilà.
Alors, les mesures alternatives existent, puisque tout à l'heure, on vous a cité l'exemple de la ville de Mel, mais beaucoup de villes en Europe et ailleurs ont fait le choix, pour leur propre service, d'aller vers le zéro pesticide. Je pense que pour les particuliers qui ont été largement montrés du doigt tout à l'heure, il y a une réelle prise de conscience et quelques enquêtes récentes peuvent le montrer. Mais le problème majeur reste l'agriculture, puisqu'on considère que 97% de la consommation de pesticides, rapport officiel du GRAP, vient du milieu agricole. Donc c'est là que se porte l'essentiel du travail. Eh bien, je pense qu'à l'exemple de villes, bon, je vous prends quelques exemples comme Munich, New York, qui ont fait le choix de protéger leur captage d'eau potable par l'implantation d'arbres ou d'agriculture biologique sur des espaces considérables sur les périmètres de captage, eh bien, il y a double avantage. Vous n'avez pas besoin de traiter l'eau du robinet et en même temps, vous pratiquez une agriculture qui ne pollue pas l'eau, le sol et l'air. Et je pense qu'une agriculture biologique qui irait, comme l'a dit le président, 20% de plus en 2020, ça serait un bon effort et on pourrait faire certainement mieux, car il y a une très forte demande des consommateurs et il y a une volonté politique de l'introduire massivement dans la restauration collective. Voilà pour citer un exemple. On ne pourra pas continuer ce type d'agriculture. On va laisser à nos descendants des sols, des eaux polluées pour très longtemps, car les effets rémanents sont longs. 25% des captages en Poitou-Charentes, en eau brute, ont une eau qui dépasse la norme de 0,1 microgramme par litre. On ne peut pas continuer ainsi.
Alors, est-ce que vous préconisez des mesures répressives pour ceux qui ne se mettraient pas dans un cadre de réduction de ces usages, ou est-ce qu'on doit compter sur une bonne volonté? On mesure tous les ans, voir si...
Nous parlons bien de l'agriculture.
On parle de l'agriculture.
Nous laissons pour le moment les 3% qui restent tranquilles. Alors, en ce qui concerne l'agriculture, les maîtres du jeu, malheureusement, ce ne sont pas les collectivités locales. Et d'ailleurs, la région Poitou-Charentes, au sein du GRAP, s'est engagé sur un travail très important, mais pour les 3% qui restent, pas pour le monde agricole, ce n'est pas de notre compétence. Donc, sur le monde agricole, le grand malheur vient des choix qui ont été faits par la politique agricole commune, c'est-à-dire la PAC qui encourage et qui finance largement un type d'agriculture qui s'oriente vers des rendements maximums, donc un type d'agriculture extrêmement prédatrice sur l'environnement.
Bruno Le Poivre, vous, comment est-ce que vous voyez une alternative à l'usage des pesticides? Est-ce que c'est possible pour vous? Est-ce que l'objectif de réduction de 50% en 10 ans, c'est une chose à laquelle vous adhérez? Et comment est-ce que vous avez le sentiment que l'ensemble du monde agricole a cet objectif pour CAP et qu'ils vont s'y tenir?
L'objectif de réduction de 50% peut être, c'est vrai, très, très séduisant. Mais je vous disais, je suis plus pragmatique que dogmatique, si vous voulez. La réduction de 50%, moi je pense qu'elle ne sera pas atteignable. Et beaucoup de gens, je suis convaincu, pensent la même chose, mais ne le disent pas.
Pour quelle raison ça ne serait pas atteignable?
Eh bien, écoutez, il y a pas mal d'exemples. Madame Legrand faisait valoir la mise en place de l'agriculture biologique, non seulement dans des périmètres de protection, de captage d'eau. On a un exemple en Europe, c'est l'Autriche, qui était fer de lance en termes d'agriculture biologique. Elle n'a pas réussi à dépasser 10% de sa surface, avec une régression de 6%, de l'ordre de 6% de l'utilisation des pesticides. On est déjà au taquet à 10%. L'ambition de 20%, dans le cas du Grenelle, enfin, déclarée par le président de la République, ne sera pas atteignable. On a déjà un vécu, on a déjà une expérience, c'est mesuré. Donc ça, c'est la première chose. Une alternative, tout à fait, il y en a. Ça prend du temps, ça exige de l'expérience et de l'expertise. Ça ne se décrète pas. Qu'un tel ou un tel décrète, il faut réduire avec des mesures restrictives, bon, très bien, mais ça relève plus de l'utopie, du politique, que du réalisable. Donc il faut peut-être mettre en place des moyens, bon, tels que la pédagogie, la formation, ça j'en suis absolument intimement convaincu, mais il faut un pas de temps. Et ce pas de temps, il ne se décrétera pas du jour au lendemain. Donc, il faut non seulement accompagner les agriculteurs, il n'y a pas que les agriculteurs. Bon, on ne va pas se lancer les chiffres à la figure, 87% serait dû à l'agriculture. Je suis un petit peu moins haut dans les... Mais bon, le problème demeure. C'est vrai que l'utilisation de ces pesticides pose un problème et pose encore des problèmes en termes de santé. Mais il ne faut pas occulter l'autre face de l'utilisation de ces pesticides. On fait toujours valoir le côté négatif. Mais ces pesticides ont quand même amené des atouts, plus de production. Je ne parle pas de production intensive, plus de production. Au sortir de la guerre, il y a eu une demande de plus de production pour répondre aux demandes de la société en termes alimentaires. Au niveau mondial, on va prendre un peu plus de hauteur. On est ici au FIFO. Prenons de la hauteur comme un oiseau. On parlait de 850 millions de gens qui crevaient de faim. On en est à 925 aujourd'hui. C'est pas en mettant de la culture biologique en place qu'on va pouvoir répondre à cette réponse alimentaire. Moi, permettez que la contradiction existe. Je suis pas à FNE, mais j'ai autant le droit d'argumenter. Que vous ne soyez pas d'accord, je veux bien l'accepter, mais au moins écoutez mon argument. En 2008, on parle de 925 millions de gens qui crèvent de faim. Moi, je veux bien qu'on réduise les pesticides, mais il va falloir répondre en même temps à cette demande, à cette problématique alimentaire.
C'est impossible d'avoir des rendements aussi efficaces sans
pesticides. Ce qui est assez amusant, si vous voulez, dans le travail que nous avons fait, et on se réunissait, le groupe entier, pratiquement tous les 15 jours, et il y avait aussi des sous-groupes qui se réunissaient. Donc, c'était un travail assez long, qui a duré 6-7 mois. La première réunion, ça a été exactement comme ça. Donc, vous voulez, oui, argument simpliste, contre-argument simpliste, je le dis comme je le pense. Et ça, c'est typique de notre pays, d'ailleurs. Donc, il a fallu 6 mois pour qu'on aille au-delà des arguments simplistes. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je n'avais pas trop envie d'intervenir, parce que là j'interviens sur le plan du fond. Si on continue en France à s'envoyer en une heure des arguments que vous enregistrez pour envoyer aux citoyens tels arguments, bien sûr, on n'avance pas. Bien sûr, on n'avance pas. Alors, je crois qu'il faut dire qu'on ne peut pas diminuer de 50. On peut diminuer pas mal, parce que d'autres pays, comme l'Allemagne, je vous l'ai dit, fait mieux que nous. Encore, je ne puisse pas mettre totalement ma main à couper, puisqu'il faudrait comparer les cultures, peut-être isoler la vigne qui consomme beaucoup de choses. Mais Madame Legrand, nous n'avons pas sorti, le groupe n'a pas sorti l'idée de la coercition simple, qui est de taxer massivement ces produits-là. Pourquoi l'a-t-on pas dit? On est dans un problème de concurrence internationale et européenne. Il faut bien quand même considérer d'autres questions qui s'appellent l'emploi. Nous n'avons pas fait aussi, puisque nous étions dans une période de prix élevés qui frappait assez durement les bas revenus, et comme ces revenus vont diminuer, c'est pas le fait de la diminution des denrées qui va solutionner le problème. Il faut un peu examiner l'ensemble des questions. C'est toujours très facile d'envoyer une idée, puis se dire après, ça va dans le brouhaha, on sait pas quoi, et il va y avoir une décision, comme de toute façon je représente très peu en pourcentage des électeurs, la décision sera prise par d'autres, j'ai ma vertu protégée. Il faut bien arriver à un moment où on arrive à avoir des endroits où on essaye d'échanger au-delà des arguments simplistes.
Alors, moi, je trouve extrêmement pénible, je trouve extrêmement pénible et je dirais indélicat de la part de certains des participants à ce débat de m'envoyer, comme je suis habituée à l'entendre quand on parle là où ça mâche, comme on dit, des mots du genre vous êtes dogmatique, vous êtes simpliste, vous êtes agressive. Je pense que je suis tout simplement réaliste. Ce que j'avance est vérifié. Ce ne sont pas des inventions. Quand je dis que 25% des captages ont une eau qui dépasse le taux de pesticides, c'est une vérité. Quand je dis que 30% des oiseaux des plaines ont disparu depuis 1990 en France, c'est une vérité. Je peux vous en citer d'autres sur les travaux du professeur Chansigaud à l'hôpital de Poitiers qui a démontré un lien direct entre pesticides et problèmes de stérilité sur des cohortes d'agriculteurs. D'autres études de ce type sont en cours. Je ne comprends pas que vous ne puissiez pas les entendre en me qualifiant de dogmatique et de simpliste. Je pense que là, évidemment, quand une élue verte fait une intervention et avance des vérités qui sont celles-là, ça gêne certains lobbies, bien évidemment, et vous savez lesquels. Mais il y va, je le répète, de la survie de notre espèce. Et alors, on entend toujours les mêmes arguments, il faut nourrir la planète, l'après-guerre, ceci, cela. C'est terminé, je veux dire. On a l'impression que vous avez, vous aussi, vous êtes dogmatique, vous avez une pensée unique avec une école de pensée. Je veux dire, je ne sais pas où vous avez pris vos cours, mais en tout cas, elle n'est pas partagée par la population, ça je peux vous le dire.
Donc, on constate qu'il y a forcément des désaccords entre les différentes personnes qui sont réunies ici, mais comme le disait Monsieur Payotin, c'est à partir de ces désaccords initiaux que vous avez réussi à construire.
D'ailleurs, c'est pas ce que vous croyez, c'est que vous êtes élu, je suis électeur. Donc je vous écoute, et vous avez beaucoup d'audace face à un électeur quand même.
Je ne suis pas venu à ce débat pour me faire insulter, vous voyez.
Je n'ai pas insulté, madame.
Venons-en à des questions donc qui émanent du public. Alors certaines risquent d'être assez polémiques Aussi, alors une question concernant les collectivités locales, donc elle s'adresse à nos deux élus, l'implication des collectivités locales dans la réduction de ces pesticides, dans leur usage, est-ce que c'est une démarche volontaire qui émane de chacune des collectivités, ou est-ce qu'il y a un plan plus général qui incite toutes les collectivités à adopter de telles mesures?
On peut commencer par le plan régional et ensuite
Oui.
celui de Leu parlera de son plan. Donc évidemment, chaque commune ou groupement de communes peut en toute liberté définir un plan de réduction des pesticides. Mais en tout cas, le GRAP, qui est le Groupement Régional de l'Action contre les Pesticides, et qui s'appelait il y a 10 ans le Groupement Régional d'Action contre la pollution par les phytosanitaires, vous voyez l'évolution des mots, maintenant c'est le mot vrai, eh bien le GRAP, qui fait un travail très intéressant, a délégué une partie de ces actions que la région prend en compte pour tout ce qui concerne les 3% d'usagers particuliers et les collectivités. Donc, à ce titre, nous avons toute une série d'actions en cours, la plus récente étant une enquête auprès des 1500 maires du Poitou-Charentes avec un taux de réponse de 70%, un fort intérêt des maires pour s'emparer de ce dossier, et puis toute une série d'autres actions d'accompagnement, de formation de tous les élus et de tous les groupes de particuliers ou associations qui voudront nous accompagner dans cette réduction auprès des 3% d'utilisateurs autres qu'agriculteurs.
Et concernant donc le Conseil général des Deux-Sèvres.
Concernant le Conseil général des Deux-Sèvres, nous souhaitons être exemplaires en la matière et nous avons un certain nombre de mesures qui sont liées bien sûr à nos compétences. Nous avons, pour un titre d'information, pour 7000 km d'accotement routier, par exemple, à gérer, 200 bâtiments, des collèges, un certain nombre de sites départementaux, des musées, donc nous avons un usage de pesticides qui a été estimé par les services à peu près 1000 litres par an. Ça correspond à peu près à une dépense d'à peu près 10 000 euros, ce qui est assez finalement peu au regard du budget départemental, mais avec un effet sur l'environnement assez conséquent, lui. Alors bien sûr, on s'est interrogé sur les pratiques, qui utilisait les pesticides dans les services et pour quel usage. On s'est rendu compte que l'usage était plutôt autonome, généralement, et plutôt décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment une réflexion globale d'achat ou de charte éthique d'utilisation. Donc on a repéré ce problème-là. Et puis en termes d'usage, finalement, on se rendait compte, le service route, par exemple, qui en utilise beaucoup, puisqu'il a de nombreux kilomètres à entretenir, et pas simplement dans une vocation esthétique, c'est vraiment une vocation sécuritaire. Eh bien, une autre solution alternative lui faisait finalement était 35 à 300% fois plus onéreuse que l'utilisation de produits phytosanitaires, et le temps passé était beaucoup plus conséquent également. Donc c'est vrai, c'est une réponse simple à un problème simple, l'entretien des accotements routiers par exemple. Mais quand on s'interroge et qu'on systématiquement on se pose la question comment je pourrais faire pour mon passé, finalement on se rend compte que les agents, et ça je les félicite, sont très imaginatifs. On trouve des solutions alternatives. Alors, il y a des solutions bien sûr technologiques, il y a des méthodes à l'eau chaude ou à la noix de coco par exemple, des méthodes thermiques qui fonctionnent bien, qui sont assez, assez onéreuses, mais l'imagination est souvent plus intéressante, à savoir que sur le domaine routier par exemple, plutôt que de traiter autour de chaque panneau ou chaque balise, on peut très, très bien mettre des balises routières sur fourreaux par exemple, les enlever, faucher et puis les remettre après, plutôt que de passer des produits phytosanitaires autour. Alors on peut très bien également mettre une bâche autour, au droit du panneau, plutôt que de traiter à son pied. Il y a des solutions simples, pragmatiques à mettre en place, et en tout cas, c'est une réelle volonté politique aujourd'hui que de réduire de façon drastique les émissions des produits phytosanitaires dans le département. Alors par quels moyens? On se rend compte que nous pouvons agir, nous sommes aussi garants de la qualité de l'eau potable, nous sommes garants de la protection des périmètres de captage des eaux potables, sur les ressources stratégiques en eau potable. Sur le Cédron par exemple, le barrage du Cédron qui est une des principales, enfin nous avons deux barrages principaux d'eau potable dans le département, le Cédron est un barrage départemental avec un bassin versant qui a la chance d'être un bassin versant principalement d'élevage, mais néanmoins nous avons l'usine d'eau potable à côté relève des taux de pesticides assez conséquents. Ils ne dépassent pas la norme régulièrement, mais ils sont toujours aux alentours de 0,05 à 0,1 mg par litre d'eau. Et on se rend compte, donc nous avons la Deux-Sèvrienne qui passe à proximité, et le service route du Conseil général n'utilise plus de phytosanitaire le long de cette route départementale. Et dans les analyses, on se rend compte très vite que les taux baissent. Donc c'est vraiment significatif sur un bassin versant. Nous souhaitons également engager toute une politique d'information auprès des usagers, des particuliers, mais aussi des agriculteurs sur le bassin versant du Sébran. Il y a un certain nombre de partenariats qui sont engagés pour justement les aider à faire en sorte que leurs pulvérisateurs soient vidés ou d'une façon plus pragmatique, on va dire, ou plus responsable, que les produits soient mieux stockés. Mais ça, finalement, la loi l'oblige déjà, mais ce n'est pas toujours dans les pratiques quotidiennes. Donc, sur des bassins versants particuliers, nous arrivons à agir et nous avons des résultats immédiats en termes de milligrammes par litre de pesticides. Au Conseil général, nous avons également du coup mis en place un comité interservice pour s'interroger sur l'usage des pesticides et faire en sorte de l'utiliser le moins possible et en tout cas de façon la plus pragmatique possible.
Voilà, donc maintenant je vais appeler Monsieur Lafitte, qui avait une question concernant donc le retrait de certaines molécules et les stocks, s'il veut bien nous rejoindre pour poser sa question. Alors peut-être que c'est une question qui s'adresse au GRAP, je ne sais pas.
Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. La question que je voulais poser est simple. Au sujet des produits phytosanitaires, il nous a été dit qu'on les retirait du marché.
Bon, on les retirait d'entre eux.
Pour certains d'entre eux. On a retiré 800, je crois, dans les 10 années passées. Mais personne ne parle des stocks. Alors, que fait-on de ces stocks? Alors, on m'a dit qu'ils étaient écoulés vers des produits étrangers, vers des pays étrangers, mais pourquoi ne pas décider tout bonnement de les détruire purement et simplement?
Monsieur Payotin, peut-être ou...
Merci. Je ne suis pas responsable du ministère, mais j'ai assisté à la négociation. Il y a une négociation, c'est-à-dire quand on dit on arrête, il y a une négociation. Alors les fabricants arrêtent très vite, quasiment instantanément, et les distributeurs demandent à liquider leur stock, et les agriculteurs à les liquider. Donc ça peut durer un an et demi à deux ans. Ils ne sont pas évacués.
Monsieur Fourré, pour
un délai qui est fixé, que vous devez pouvoir trouver dans les arrêts divers et variés.
Une précision. Je vais répondre pour le service régional de protection des végétaux qui suit justement l'homologation et l'application des produits phytosanitaires. Il y a un groupe qu'on appelle Adivalor, qui est un organisme national qui regroupe aussi bien les producteurs de produits que les utilisateurs que les administrations, qui ont mis en place depuis quelques années un système de récupération des produits et grâce à travers les centres de dépôt, donc tous les produits qui sont plus utilisables, qu'on appelle PPNU dans le jardin, sont récupérés par un circuit bien balisé et bien sécurisé et ensuite transmis à des organismes qui sont habilités à détruire par la chaleur, par un cycle bien défini. Donc toutes ces adresses d'ailleurs sont consultables sur, si vous faites recherche au niveau informatique Adivalor, vous trouvez tous les sites par département. Il y a une douzaine d'entreprises qui récupèrent. Donc, ça s'est mis en place aussi bien par les administrations que par les professionnels pour justement éviter que les produits restent dans la nature et ne soient plus utilisés. Et nous, lors de contrôle aussi, puisque nous réalisons des contrôles, on demande un bordereau d'acculier de réception comme quoi le produit a bien été transmis au dépôt et ensuite récupéré. Donc on a une traçabilité du PPN.
Oui, deux choses un peu différentes, hein, c'est tout à fait exact. Mais quand on décide, comme ça a été décidé en fin d'année dernière, d'arrêter un certain nombre de produits, c'est clair qu'ils s'arrêtent quasiment instantanément dans les firmes, qui n'ont pas intérêt à continuer à fabriquer des produits qui ne serviront plus, qu'on ne rachètera pas. Mais il y a une négociation qui pour les distributeurs, ils disent, mais nous, il nous faut un délai, et les agriculteurs, une négociation avec le syndicat agricole, qui disent, nous, il nous faut un délai. Alors ensuite, ce délai, il est fixé par les pouvoirs publics, et il n'est pas secret, il doit être dans un certain nombre d'arrêtés, mais il y a toujours un retard à l'allumage.
Monsieur le
S'il n'y avait pas de retard à l'allumage, bien sûr, il y aurait un coût financier. Parce que ce qui est demandé, c'est soit le délai, soit le financement du retrait du marché.
Monsieur Le Poivre, qui m'arrive le grand ensuite.
Pour aller dans le même sens que M. Payotin, à travers le réseau des OS, c'est les organismes stockeurs, c'est-à-dire ceux qui vendent comme des coopératives, des produits phytosanitaires, vous avez un premier cap, c'est-à-dire une date qui fixe l'arrêt de la vente de ces produits, et après vous avez une autre date qui fixe l'arrêt de l'utilisation de ces produits. Alors il y a une information qui est bien donnée en termes d'abord de vente, c'est-à-dire au-delà de cette date, c'est pas la peine, on n'en vendra plus, mais méfiez-vous, n'en commandez pas trop, par exemple, je prends le tréflan qui peut servir aussi bien au printemps d'une année, mais quand on a un reliquat, on peut s'en servir l'année suivante, il y a une date butoir d'utilisation. Donc, on sensibilise le public agricole à ce calendrier-là. Donc, ça explique un petit peu, si vous voulez, cette notion de traçabilité, que deviennent les produits quand ils sont plus autorisés à la vente et que deviennent-ils quand ils sont plus autorisés à l'utilisation. Là, on parlait de destruction. Voilà, c'est la deuxième étape.
Marie Legrand.
Et c'est pour cela, comme disait Michel Caillon, que Atmo détecte dans l'air du Poitou-Charentes, au moment où on fait des traitements classiques avec les produits homologués, du lindane, 9 ans après son interdiction. Donc, cherchez l'erreur.
Je peux intervenir. Je crois que M. Caillon avait donné la... Non, c'est pas M. Caillon, c'est M. Fourré qui avait donné l'explication. Ce lindane... Enfin, moi, j'ai peine à croire, madame, qu'il y ait une utilisation frauduleuse du lindane. Ça fait peut-être 10 ans qu'il est interdit en agriculture, en termes de désinfection des sols. L'explication qui vous a été donnée, c'est notamment la présence de lindane dans le traitement du bâtiment des charpents. Le calendrier, madame, je ne peux pas être affirmatif, ce n'est pas de ma compétence, mais l'explication est donnée.
Un élément par M. Caillon et on arrêtera sur ce sujet.
Simplement.
Non, prenez le micro, s'il vous plaît. Prenez le micro.
Voilà, j'ai les courbes sur place, si vous voulez. Il y a effectivement un bruit de fond.
Dans le micro,
s'il vous plaît. Une pollution de fond. Et cette pollution de fond, elle est permanente depuis l'utilisation jusqu'à maintenant. S'ajoute à cette pollution, j'allais dire chronique, probablement due à des insecticides ménagers ou urbains, on voit apparaître pendant les périodes classiques d'application des insecticides, pendant la première année après, une utilisation encore importante. La deuxième année, ça baisse. La troisième année, il y en a encore, mais ça baisse encore. Et on va atteindre, je pense, assez rapidement maintenant, c'est valable jusqu'à 2006. Je n'ai pas les valeurs après, mais précisément, vous voyez encore cette valeur, elle était forte l'année d'après. Mais après, on voit apparaître effectivement une descente. Et ça veut dire quand même que l'année d'après, il y a eu l'utilisation du lindane. Et probablement la deuxième, peut-être encore un petit peu, mais beaucoup moins. Alors ça, c'est valable aussi pour d'autres produits. Là, c'est des valeurs. La trazine, par exemple, ouais. C'était la même chose. La première année, après, il y a eu l'utilisation.
Donc on constate qu'il y a des utilisations après l'interdiction, par les mesures, du moins, qu'on fait dans l'environnement. On constate, c'est ça. On va passer à un autre sujet.
Une autre précision. Les agriculteurs sont contrôlés par le CRPV. Fourré peut témoigner. Il peut vous garantir que les sanctions sont si dissuasives. Donc, à une réalisation frauduleuse, j'ai du mal.
Et peut-être que certains prennent le risque.
C'est peut-être d'une autre origine.
Alors, une question, donc, vous répondez sans esprit polémique. Enfin, vous donnez votre point de vue, chacun doit le respecter. Alors, je ne sais pas comment vous allez répondre à cette question. Peut-être on va commencer par vous, Marie Legrand. Au nom du principe de précaution, pourquoi ne pas être plus ambitieux et viser zéro pesticide en agriculture? C'est ce que vous aviez un peu évoqué tout à l'heure. Alors, zéro pesticide sur l'ensemble de l'agriculture, je pense que c'est un petit peu utopiste, parce que ça voudrait dire du bio absolument partout. Orienter la PAC vers l'accompagnement de telles pratiques pour les services rendus à la société. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'une personne de la salle?
Oui. Souvenez-vous de la méchante querelle en 2007 qui a été faite aux malheureux qui fabriquaient eux-mêmes leur purin d'ortie et ceux qui voulaient le commercialiser. Vous vous souvenez de cette histoire? C'est un peu lamentable. C'est-à-dire qu'il y a des particuliers, des gens qui connaissent des traitements alternatifs avec des plantes, et ceux-là, on les montre du doigt dans un premier temps en disant c'est vilain, il faut passer par le bon marchand de pesticides agréés. Moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que la division par deux en 10 ans.
Mais zéro,
il faut aller beaucoup plus loin. Mais il faut se fixer des objectifs, je dirais, ambitieux si on ne veut pas détruire la planète. Comme disait Belle Pomme, le 21e siècle sera écologiste ou nous ne serons plus.
Mais comment pratiquement, après, pragmatiquement, mettre en place...
Faire des deux mains. Mais quelle sera la conséquence? C'est qu'il y a des gens qui sont assez favorables, d'ailleurs, dans ma campagne, on importera notre alimentation. Il y a des gens qui sont favorables, c'est pas toujours sympathique pour les agriculteurs, puisqu'ils trouvent que l'alimentation française, lui, elle coûte trop cher. Parce qu'il y a des gens dans les communes qui ne gagnent pas très bien leur vie et que le mieux serait d'importer, venant par exemple du bio d'Argentine. Donc la solution, elle existe, elle est faisable dès demain. Pourquoi en Argentine? Parce que l'Argentine produit. Parce que l'Argentine a choisi le créneau bio et qui sont assez bien placés, qui exportent effectivement aux États-Unis et qui sont prêts à exporter en France. Et d'ailleurs, qu'ils exportent en France. Ils ont pour ce faire adopté sous la pression de la grande distribution française, qui veut vendre du bio pas cher, qui vend du bio pas cher, dont vous ne demandez en général pas d'où il vient, ils ont adopté en Argentine la loi européenne de manière à pouvoir se mettre aux normes que fixe la grande distribution. La loi argentine a été votée sous le dictat de la grande distribution européenne. Donc tout est prêt. Et l'Allemagne, quand il y a eu une ministre en Allemagne qui a dit on va 50% de bio, ils ont importé. Et c'est très faisable. Je dirais pourquoi pas, c'est un choix politique, là, c'est plus un choix technique. Et on peut très bien imaginer de faire comme ça.
Est-ce qu'avec l'agriculture bio, on peut espérer atteindre des rendements qui permettent de fournir de l'alimentation à tout le monde?
La question est toujours la même. J'ai l'impression de me répéter légèrement. Quel monde voulons-nous laisser à nos enfants et petits-enfants? Est-ce que c'est un monde dans lequel le sol, l'eau et l'air pour de très longues années sera pourri, ou est-ce qu'on veut faire un effort pour leur laisser un monde vivable? Voilà la question. Quelle agriculture avons-nous besoin? Je veux dire, M. Pisani posait la question il y a déjà 18 ans. De quelle agriculture avons-nous besoin? Une agriculture respectueuse, je dirais, de l'environnement, des hommes, de l'alimentation, de la santé humaine. Donc à chaque fois, on reçoit les mêmes arguments disant « c'est impossible, on va importer d'ailleurs ». Mais je veux dire, il faut croire aux choses possibles, on ne peut pas continuer ainsi la destruction de la planète.
Mais est-ce que c'est possible, Marie Legrand, concrètement? Est-ce que
ce qui est possible en ce moment, c'est même fait, c'est réalisé, c'est la destruction. Ça, c'est
oui,
possible.
Bien sûr, mais est-ce que c'est possible de mettre en place une
véritable chose? Je vais lire le livre de M. Pacoulet, l'ami de Cousteau, « L'humanité disparaîtra, bon débarras ». C'est horrible, hein, c'est un slogan horrible, mais enfin, je veux dire, ça donne à penser. Dire, on est parti pour s'autodétruire. Il n'y a pas seulement l'histoire des pesticides, il y a toute une série aussi d'initiatives. On est parti pour s'autodétruire, le changement climatique et autres phénomènes. Donc c'est un choix de société. Est-ce qu'on veut s'autodétruire en moins d'un siècle? On a les moyens. Ou est-ce qu'on veut inverser la manière de vivre?
Alors maintenant, une question de Jean-Michel Minot, s'il veut bien venir, concernant l'utilisation des OGM pour la réduction des pesticides. Venez au micro, s'il vous plaît.
Ma question était simple. Est-ce que les OGM permettraient, l'utilisation des OGM permettrait la destruction, empêcherait l'utilisation des pesticides ou les diminuerait? Mais sans commencer le débat.
Sans commencer le débat. Bon. Qui veut répondre?
Je vais répondre que sur 6 mois de travail dans notre groupe, personne n'a évoqué et abordé ça. Pourquoi? Moi, je m'excuse pour mettre un peu d'humour dans cette réunion. Les questions sur les OGM, ça me rappelle toujours ce numéro de Coluche à propos du Schmilblick. Est-ce que les OGM, alors, on les ramène à tout instant. Donc, tout le monde s'est dit que c'est trop facile d'appeler comme ça les OGM à la rescousse et puis de dire l'affaire est réglée. Alors, sur le cas des pesticides, personne n'a trop évoqué parce que un certain nombre de résistances aux herbicides ou aux insecticides se traduisent par une utilisation plus grande des herbicides et des insecticides. Donc il aurait fallu faire un raisonnement global de protection des cultures. Personne n'a voulu s'aventurer dans cette affaire-là parce que je crois qu'en France, il aurait été très difficile de discerner un avantage pour les OGM. Il aurait peut-être été aussi très difficile de... Non, je crois que la question du refus des OGM n'a rien à voir avec cette question. Il y a tout bêtement une majorité cette fois-ci, donc 2 clients notamment, qui n'en achèteraient pas. Et c'est même pour ça que la grande distribution fait tout pour qu'il n'y en ait pas. Donc, On n'est pas du tout dans la même situation.
Alors, une question maintenant de Monsieur Pilot, je crois, qui est viticulteur.
Bien, puis-je me permettre une réflexion philosophique un peu sur ce que j'ai entendu en tant que scientifique et en tant qu'agriculteur. Eh bien, Montesquieu disait « Tout ce qui est excessif est insignifiant ». Et je crois qu'on en est là. Et si on est excessif et qu'on est insignifiant, c'est parce que vous n'avez peut-être pas abordé un problème qui me paraît extrêmement important, c'est le problème quantitatif. D'abord, une première chose, première remarque. Le risque zéro n'existe pas, il n'existera jamais. Madame, vous êtes venue en voiture, vous avez pris un risque. N'importe qui prendra un risque, il y aura toujours un petit risque. Et je m'adresse au toxicologue quand il nous dit, il a raison, que, bon, on raisonne la toxicité en kilos de rats qui sont morts. Or, l'homme n'est pas le rat. Deuxièmement, on parle de la rémanence du produit dans le sol. Bon, les produits qui ont été utilisés pour étudier la toxicité sur le rat, qui est déjà insuffisant, sont des produits initiaux. Mais il y a des produits de dégradation dans le sol. Et on n'a jamais pu étudier encore à l'heure actuelle l'impact de ces produits de dégradation sur la santé des individus. Donc, voyez-vous, je suis très ouvert. Alors maintenant, j'ai deux questions. Il y a une première question qui me préoccupe beaucoup, et il y a longtemps que je le disais, depuis 20 ans, c'est le problème du ciment, le problème du béton. On sort plein de choses du centre de la Terre, on les répand en surface. Alors, il y a une question qui me préoccupe beaucoup. On a continué maintenant avec les synthèses chimiques. Et nos collègues scientifiques, ils ont fait plein de synthèses. Je ne sais pas quel est le nombre, c'est une question précise qu'on peut m'informer, du nombre de molécules qui auraient été synthétisées, je dirais, depuis le début de la synthèse chimique et qui n'existent pas dans la nature. Et toutes ces molécules ont un danger potentiel parce qu'il faut 30 ou 40 ans pour savoir en réalité leur utilisation chez l'homme. Donc, voyez-vous, c'est pour vous montrer la relativité des choses. Alors, est-ce que l'on sait le nombre de molécules, M. Payotin? On m'a parlé de 30 000, ça me paraît beaucoup.
Oui, c'est bien plus.
C'est beaucoup.
Bon, soit alors ma première question.
Avouez d'ailleurs, bien des mystères de la nature, c'est qu'on arrive à avoir quand même des réactions de défense contre ces molécules inconnues.
Oui, mais elles sont allergiques. C'est un inconvénient. Bien, alors ma deuxième question, maintenant je voudrais apporter le fruit de mon expérience. Bon, pour vous dire que je ne suis pas exclusif vis-à-vis de personne, ni vous madame, ni monsieur Payotin, je suis à ma retraite, mi viticulteur pour rester dans la tradition de paysanne de mon père. J'ai planté 10 hectares de vignes. Et cette année, j'ai fait une expérience. J'ai passé 5 hectares de vignes en bio, et je passe vers la conversion bio, et 5 hectares en traditionnel. Et j'ai fait une expérience sur à peu près 277 de vignes de différents cépages que j'ai traitées avec, en réduisant de 50% les produits chimiques que j'ai distribués dans les autres. Résultat, je n'ai eu aucun raisin. Mildiou partout et l'oïdium partout. Je les ai récoltés normalement. J'ai récolté ce qu'il fallait quand j'ai traité mes 7 ou 8 traitements. Quand je les ai réduits à 3 ou 4 dans la partie, je n'ai pas eu un raisin. Donc, je ne pense pas que la réduction de 50%, au moins dans la viticulture, changera les données du problème. Ça, il faut le reconnaître et je rejoins la Chambre d'agriculture sur ce sujet. Bon, maintenant, il faut trouver des solutions. Il y en a probablement. Mais il y a un autre exemple que je vais vous donner qui m'inquiète beaucoup. Je ne sais pas, nous sommes dans une région d'élevage et pas de viticulture. Mais il y a actuellement le drame, et c'est un drame peut-être qui va être aussi grave que phylloxéra, des maladies du bois dans la vigne. Et la maladie du bois est une maladie qui était complètement inconnue, qui surgit depuis une dizaine d'années. Cette année, moi, je remplace 15% de mon vignoble qui n'a que 10 ans, les plus anciens, avec des nouveaux cèpes parce qu'il y a cette maladie du bois. Et nous avions un traitement remarquable pour cette maladie qui était l'arsenic. Et l'arsenic, eh bien, tout le monde le connaît dans le pays depuis Marie Bénard. Eh bien, l'arsenic, figurez-vous, quand on le donnait une fois tous les 3 ou 4 ans, ça suffisait pour maintenir le niveau d'infection. Et on nous l'a supprimé. Moi, je le regrette tout en étant, je dirais, à évolution écologique, cette suppression de l'arsenic. Et j'ai même eu l'occasion de demander à M. Bussereau, mais il n'a pas voulu m'écouter, que l'on prenne des entreprises spécialisées avec du matériel qu'on dispense à disposition des viticulteurs et qu'ils soient vraiment très pointus pour distribuer ce produit, je dirais, essentiel. On l'a supprimé. Pourquoi? Parce que, paraît-il, il donne des cancers de la peau, ce qui est vrai. Mais quand j'étais étudiant en médecine, on prescrivait la liqueur de Fuller pour traiter la tuberculose. On n'avait pas les antibiotiques. Eh bien, cet arsenic, eh bien, il pourrait être judicieusement utilisé. Et pour terminer, la dernière question au sujet des OGM, je puis vous dire que les gènes ne passent que sur des espèces voisines. Comme la vigne est est pratiquement seule à part les vignes vierges, le jour où il y aura une OGM qui sera résistante aux maladies du bois, je sauterai tout de suite pour la prendre.
qui veut réagir
L'arsenic, j'en parlerai pas, encore que l'idée d'avoir des entreprises un peu spécialisées est une idée qui intéresse les entreprises de travaux, ça ne s'appelle plus agricole maintenant, de l'environnement, des intervenants professionnels dans certains traitements. Sur la vigne, vous n'avez pas eu de chance, cher ami, puisqu'il y a eu, pas cette année, mais l'année d'avant, une attaque sévère de mildiou sur tout ce qui est sensible au mildiou. Donc vous avez fait votre expérience au plus mauvais moment. Et donc il faut une alerte. Et dans beaucoup de régions, en tout cas dans le Bordelais, ceux qui travaillaient en bio ont eu le choix de soit de perdre tout, soit de traiter. Alors je crois qu'ils ont eu une dérogation pour traiter, et donc ils ont traité. Donc il y a des cas où il faut être sérieux, c'est-à-dire s'il y a une alerte au milieu, c'est là aussi il faut une alerte, et bien là on donne une dérogation au bio pour traiter, parce que là il n'y a rien à faire. Et puis, OGM, oui mais le problème des OGM dans les vignes, c'est que si c'est pour boire vous-même votre vin, c'est pas très grave. Maintenant, si vous voulez gagner votre vie, vous allez essayer de vendre votre vin, mais personne ne vous l'achètera.
Alors, une question peut-être un peu technique maintenant. Comment se débarrasser du rumex sur des prairies pâturées sans utiliser de pesticides? Donc là, on est dans l'aspect pratique des choses. Qui a une solution? Alors, ils ont essayé le désherbage manuel et le lithotam, sans résultat. Personne n'a de solution pour ça?
Si, mais...
Si, Thierry.
J'ai pas de solution, mais s'il y a quelqu'un qui a une réponse, c'est la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences, qui a l'habitude de faire de la production de semences, et sait traiter et apporte des solutions à des gens qui font de l'élevage. Donc, en plus, ils sont installés à Lusignan. Ça s'appelle Monsieur Haquet. Donc, vous me posez la question. Je ne sais pas s'il va répondre, mais s'il y a une réponse, elle est là.
D'accord. Donc, une question peut-être s'adresse à Monsieur Brunet. Existe-t-il une ou des études épidémiologiques sur la population des agriculteurs, on précise des céréaliers, les plus exposés aux pesticides et lesquels, parmi ces pesticides, seraient les plus dangereux?
Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'études qui ont été faites en ce qui concerne les personnes les plus exposées, notamment les agriculteurs. Alors, je ne pourrais pas vous donner les noms des molécules les plus impliquées, mais il est évident que chez les agriculteurs, il y a des faisceaux de présomption assez forts en ce qui concerne les associations entre l'utilisation de pesticides et certains cancers, notamment les lymphomes malignants. Ça, c'est le faisceau de présomption le plus fort. Vous direz que l'association cette fois quasiment démontrée, et après pas mal de, encore une fois, des études, on en attend encore des résultats, et je vous ai dit tout à l'heure, elles sont très difficiles à mettre en œuvre parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, mais effectivement on parlait de troubles de reproduction aussi qui ont été plus ou moins liés à l'utilisation de pesticides, donc certains cancers, comme je parlais tout à l'heure, des troubles neurologiques aussi. Par contre, les molécules les plus impliquées là, je ne suis pas vraiment compétent dans ce domaine.
Oui.
Il y a une étude récente qui a été démarrée en 2005 par quelqu'un qui s'appelle le professeur Le Bailly, qui s'appelle Agrican, agriculture cancer. Donc elle porte sur 190 000 individus et le choix a été fait de prendre de préférence des ouvriers agricoles, pas forcément les patrons des entreprises, qui parfois sont moins exposés que leurs ouvriers, et également les agricultrices. Et le rapport de l'étude sera rendu à la fin de l'année 2008.
D'accord, donc on s'en fera les coups.
C'est les ouvriers, madame, c'est que c'est obligatoire. Ce sont la sécurité sociale. Et la raison pour laquelle les agriculteurs en connaissent moins, c'est que ce n'est pas obligatoire quand ils sont des patrons, et c'est la MSA qui doit suivre ça, et qu'effectivement, ça a été moins suivi.
Alors, une dernière réaction, et après on va conclure.
Du travail, j'avais fait participer aux études sur les ouvriers. Dans le même temps, les médecins du travail agricole ont fait des études. À ce moment-là, c'est des études épidémiologiques qui ne cherchent pas quels sont les produits, mais qui listent le travail qui a été fait, les produits employés, et on trouve quelles sont les maladies. Et donc, on est arrivé là sans savoir spécifiquement quels étaient les produits en jeu, puisque souvent ça ne sera pas un produit en particulier, mais il va y avoir un effet multiplicateur de l'ensemble des produits utilisés, et on est arrivé à des niveaux de maladies très supérieures à ce qu'il existait dans les populations qui n'avaient pas le risque des pesticides. C'est donc à partir de ces études-là qui ont été faites il y a une quinzaine d'années sur l'ensemble de la France et pour les ouvriers agricoles et pour les ouvriers de l'industrie que on a commencé à voir la gravité du risque.
Merci donc pour cette précision. Je vais vous demander à chacun de conclure en 30 secondes maximum, à commencer par vous, Monsieur Caillon.
Oui, alors moi je pense...
En parlant dans le micro.
Oui, je pense qu'il est important d'être vigilant.
Approchez-vous un peu plus du...
Il est important de rester vigilant et nous sommes quand même relativement inquiets sur l'avenir des mesures de Grenelle si effectivement elles n'aboutissent pas à des résultats probants. Je crois qu'il nous faut délibérément militer tous, autant que nous sommes, pour des recherches fondamentales en matière de solutions alternatives. On a beaucoup parlé de la culture biologique. Moi, je serais très favorable, bien entendu, je consomme aussi des produits biologiques, et beaucoup comme moi, mais je pense que l'INRA en a fait la preuve récemment en proposant d'autres solutions qui sont à mi-chemin entre l'agriculture, j'allais dire, intensive et la culture biologique, l'agriculture biologique. Je pense qu'il y a d'autres méthodes, en particulier les méthodes d'agriculture raisonnée qui font la place, j'allais dire, aussi aux intempéries et à l'utilisation possible tant qu'il y en a besoin d'un certain nombre de produits.
Monsieur Le Pauvre, deux mots de conclusion très très rapidement.
Ah, ça fait un peu plus que deux mots. La Chambre d'agriculture n'a pas attendu le Grenelle 1, le Grenelle 2 pour mettre en place des actions en termes de solutions alternatives à l'emploi des pesticides. Aussi bien dans le cadre de l'installation, il y a un module en termes de formation sur les phytosanitaires comme sur les nitrates qui est mis en place. Nous avons au niveau régional, parce que la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres et les autres font partie du GRAP hein, en termes de comité de pilotage, nous avons mis en place avec un protocole commun à 6 ou 7 régions en France de mise en place de cultures avec des rotations différentes, des assemblements différents et une diminution de l'emploi de ces pesticides, alors que ce soit les herbicides et les insecticides. Donc ça a été mis en place dès cette année, il faut 3-4 ans hein, pour en tirer des conclusions et les vulgariser auprès du public agriculteur. Donc on travaille quand même dans le bon sens aussi.
Monsieur Payotta.
En bon intellectuel fatigué, j'étais pas nécessairement très enthousiasmé par la procédure du Grenelle de l'environnement, tout ça. Or, après, j'ai été converti avant d'avoir ce groupe parce que ça a été une réussite sur le plan de l'opinion publique, au bon sens du terme. Ça a été accepté très majoritairement. Donc, il s'est créé des espaces de discussion entre des gens qui ne se parlaient pas. C'est vrai que dans le Grenelle même, le monde agricole a été un peu laminé parce qu'il y avait d'autres intérêts en jeu, notamment du côté du MEDEF, je ne sais pas tellement le phytosanitaire qu'il essayait de protéger. Mais il y a eu un élan. Sur cette histoire qui est importante d'une réduction des phytosanitaires, moi je pense qu'il y a également un élan. On peut toujours espérer un élan plus fort, etc. Il est important que les associations de défense de l'environnement restent associées au mouvement. Et je suis peut-être angélique, madame, mais résolument optimiste pour qu'on fasse des pas significatifs en avant.
Monsieur Dugleux, quelques mots de conclusion.
Oui, en fait, sur les 3% des pesticides qui sont utilisés hors espace agricole, puisque dans l'espace public notamment, je pense qu'il faut faire aussi accepter par le grand public les éthers de folle. On a en France le syndrome du faire propre généralement, donc une utilisation assez massive de pesticides pour justement faire propre. Je pense qu'il y a une réelle acceptation culturelle des herbes folles ou des herbes sauvages à avoir. Rien que le nom, déjà, mauvaise herbe, annonce la couleur. Je pense qu'il faudrait peut-être les appeler différemment. Elles sont nobles, ces plantes aussi. Elles sont même pionnières pour la plupart. Alors, bien sûr, changer le regard sur l'espace public sans forcément, et là, c'est là tout l'enjeu, contrer le sentiment d'abandon de l'espace public. Je suis allé en Allemagne dernièrement. C'est vrai que nous trouvons dans l'espace public beaucoup d'herbes folles, d'herbes sauvages. Et elles sont à leur place. Elles sont gérées par fauchage. Elles sont acceptées.
et elles sont bien rhizosphériques et beaucoup moins de pesticides sont utilisés. Je pense que c'est une évolution culturelle à avoir aussi dans la société.
Marie Legrand, le mot de la fin.
Trois idées. La première, et je crois qu'il faut une grande acuité, une grande vigilance pour savoir, quand vous observez le monde autour de vous, quels sont les groupes qui défendent des intérêts, je dirais, personnels et ceux qui ont un sens de l'intérêt général. La deuxième chose, c'est, je pense, que c'est l'alimentation qui sera l'entrée. Une entrée extrêmement importante dans le travail à faire, avec, je dirais, un slogan qui me plaît bien, manger plus végétal, manger local et manger saisonnier, ce qui changerait déjà pas mal de choses. Et enfin, la troisième piste à laquelle je tiens beaucoup, c'est le problème culturel. On a assisté, même pendant nos débats, je dirais, à des freins qui sont d'ordre culturel, c'est-à-dire le fait d'avoir des convictions, d'avoir une formation. Donc je pense qu'il y a un très grand travail à faire auprès des enfants, des écoles, des collèges et des lycées, pour les faire réfléchir sur d'autres, un autre monde, une autre manière de consommer, une autre manière de vivre ensemble avec l'ensemble du monde et l'héritage à laisser aux autres. Donc je crois que c'est ce travail culturel qui est amené.
Bien, merci à vous cinq pour votre présence et vos apports. Et merci donc à tous les auditeurs qui nous ont suivis.